C'est l'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, cet incendie qui s'est déclaré cette nuit dans une maison du Pas-de-Calais. Incendie dont le bilan s'élève pour le moment à 4 morts, 2 pompiers et 2 adolescents. Le dispositif Amber alerte enlèvement a une fois de plus prouvé son efficacité. Le nourrisson de 2 mois enlevé vendredi soir dans un hôpital de Toulouse a été retrouvé sain et sauf hier soir. À suivre les commémorations aujourd'hui à Paris pour les victimes des attentats terroristes de janvier 2015, celle de Charlie Hebdo et celle de l'Hypercacher. On connaissait le génie des Carpates, voici venir le génie des États-Unis. C'est ainsi que se qualifie Donald Trump, ulcéré par les attaques dont il est la cible dans un ouvrage publié hier. Dans ce journal également, la poursuite de la vigilance sur le front des crues. 15 départements restent actuellement en état d'alerte. Enfin, toute l'actualité sportive dans le journal des sports, présenté par Sébastien Hazard à la fin de cette édition, avec notamment le premier faux départ des Peugeot dans le Dakar. Et tout d'abord donc l'heureuse issue de cet enlèvement d'un nourrisson de 2 mois et une fois de plus le succès du dispositif Amber déclenché hier matin dont vous avez peut-être pu entendre les messages alerte enlèvement diffusés toute la journée d'hier. Grâce à la vigilance d'un gendarme de repos, le petit Isio enlevé vendredi soir par son père à l'hôpital Purpan de Toulouse a donc été retrouvé sain et sauf hier soir, peu avant 21h, dans l'Aude. Le récit de ce dénouement avec l'un de nos correspondants dans la région, Frédéric Bourgade.
L'angoisse de la maman a duré 24 heures, mais Isio va bien, c'est l'essentiel. 10 gendarmes l'ont en effet retrouvé vers 21h hier soir. Il était avec son père dans une maison familiale à Belker dans le département de l'Aude. C'est grâce à un gendarme au repos que le nourrisson a été retrouvé. Il a en effet repéré la 307 Peugeot blanche, recherchée, garée sur le parking du centre commercial de la commune. La suite, c'est le maire de Belker, René Lafont, qui la raconte.
Ils sont venus chez moi, les gendarmes, quand ils m'ont dit le nom du gars qui avait enlevé le bébé, je savais que il venait souvent en vacances à Belker. J'ai monté aux gendarmes à la maison où habitait sa grand-mère. Les gendarmes, ils ont ouvert une porte à l'intérieur et ils sont allés trouver le bébé au rez-de-chaussée. Ils ont appelé le docteur, M. Justi, qui est venu rapidement. Les pompiers sont venus en renfort et puis ils attendaient le SAMU. Le bébé est en bonne santé, c'est l'essentiel.
Le père ravisseur et son frère ont été transférés et placés en garde à vue à Toulouse. On ne connaît pas pour l'instant les raisons du père ravisseur. Le nourrisson de 2 mois a aussi rejoint l'hôpital Purpan, où il va recevoir des soins pour la pathologie dont il souffre depuis sa naissance. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
C'est la 22e fois qu'était déclenchée hier en France l'alerte enlèvement Amber, un plan qui s'est révélé être particulièrement efficace depuis son entrée en vigueur en 2006, puisque par 2 fois seulement, il n'a pas permis de retrouver l'enfant rapidement. Et dans l'actualité de ce dimanche, cet incendie cette nuit dans une maison d'Estrée blanche entre Béthune et Saint-Omer. Incendie qui a donc fait 4 victimes. Durant l'intervention, 2 jeunes sapeurs-pompiers ont trouvé la mort. Un 3e se trouve, lui, à l'heure actuelle dans un état d'urgence absolue, tout comme la mère de famille d'ailleurs. Les corps des 2 autres habitants de cette maison, 2 jeunes âgés de 16 et 20 ans, ont également été découverts ce matin dans les décombres. On ignore pour le moment encore les raisons de cet incendie maintenant maîtrisé.
3 ans, jour pour jour, après l'attaque contre Charlie Hebdo, la France s'apprête à commémorer aujourd'hui les victimes des attentats de janvier 2015 à Paris.
De l'attaque de l'hebdomadaire satirique à la prise d'otage dans l'hypercacher de la porte de Vincennes, en passant par ce policier tué par les frères Kouachi, boulevard Richard Lenoir, ce sont au total 17 personnes qui ont trouvé la mort en janvier 2015, 17 tuées, victimes du terrorisme. C'est en leur mémoire qu'Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui en fin de matinée sur les différents sites de ces attaques pour des commémorations très sobres, Estelle Schmitt.
Pas de discours, aucune prise de parole. Comme lors des cérémonies pour les attentats de novembre, Emmanuel Macron va se recueillir dans différents lieux. Les anciens locaux de Charlie Hebdo, boulevard Richard Lenoir où un policier a été tué et à l'hypercacher. À chaque fois, un hommage sobre, lecture des plaques commémoratives, dépôt de fleurs, minutes de silence et marseillaise. Puis Emmanuel Macron passera un moment avec des proches de victimes. Il ne souhaite pas davantage se mettre en scène, explique son entourage et ne sera peut-être pas présent non plus tous les ans, à part si les famille le demande, car Emmanuel Macron ne veut pas être le président des commémorations. Pas question de multiplier les cérémonies. Là encore, il souhaite imposer son style. Pour lui, une commémoration doit avoir un rôle bien précis, décrypte un conseiller. Permettre de créer un lien entre les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Être une sorte de passage de témoin. Autrement dit, tout au long du quinquennat, Emmanuel Macron ne commémorera que lorsqu'il le jugera nécessaire.
Emmanuel Macron, qui devrait être accompagné de son épouse, de plusieurs plusieurs membres du gouvernement et de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
On connaissait le génie des Carpates, en l'occurrence le Roumain Nicolae Ceaușescu. Eh bien, voici venir le génie des États-Unis.
C'est en tout cas ainsi que se qualifie Donald Trump, et plus précisément de génie très stable. Le président américain, qui ne décolère pas depuis la publication hier du livre du journaliste Michael Wolff, intitulé Fire and Fury, dans la Maison Blanche de Trump, après avoir vu ses aptitudes mentales remises en cause dans cet ouvrage. Le locataire de la Maison Blanche a donc tenu à vanter ses facultés intellectuelles, allant même jusqu'à réagir dans une série de tweets dont il a l'habitude, ainsi que lors d'une conférence de presse improvisée à Camp David, Washington, Gregory Phillips.
Quand une journaliste demande à Donald Trump pourquoi il a ressenti le besoin de tweeter sur sa santé mentale, voici sa réponse. Je l'ai fait parce que je suis allé dans les meilleures universités. J'étais un excellent étudiant, puis j'ai engrangé des milliards de dollars en devenant l'un des hommes d'affaires les plus importants. À la télévision, pendant 10 ans, j'ai eu un succès incroyable. Après, je me suis présenté à la présidence et en un seul essai, j'ai gagné. Et maintenant, j'entends ce que raconte ce gars qui ne me connaît même pas. Il dit qu'il m'a interviewé pendant 3 heures à la Maison Blanche. Ça n'a même pas existé, ok? Sauf dans son imagination. Un peu plus tôt, le 45e président des États-Unis avait donc assuré qu'il était un génie stable, en montant ainsi au créneau pour rassurer le public sur sa capacité à gouverner. Trump prend le risque d'alimenter le débat ouvert à la suite notamment de plusieurs publications ici aux États-Unis, le livre de Michael Wolff, bien sûr, mais aussi un autre best-seller publié à l'automne, un essai rédigé par 27 psychiatres intitulé « Le cas dangereux, Donald Trump ». Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En Allemagne, 3 mois après la reconduction d'Angela Merkel, toujours pas d'issue, toujours pas de gouvernement constitué. Les tractations entre conservateurs et sociaux-démocrates reprennent ce matin.
Retour en France où 14 départements restent placés en alerte orange en raison des crues provoquées par la tempête Eleanor et les précipitations qui ont suivi.
Un passage de la tempête qui a fait 5 morts et alors que 3 personnes restent portées disparues. Tempête dont les conséquences matérielles s'élèveraient à au moins 200 millions d'euros de dégâts et alors que le niveau d'un certain nombre de fleuves et rivières continuent de monter. En Haute-Marne, à la frontière de la Côte d'Or, les recherches n'ont toujours pas permis de retrouver l'homme de 70 ans disparu depuis jeudi dans une rivière en crue. Des recherches délicates et périlleuses, selon la préfète de Haute-Marne, Françoise Souliman, qui invite ceux qui souhaiteraient venir apporter leur aide à ne pas le faire, compte tenu des dangers.
Malheureusement, le corps du ressortissant allemand n'est toujours pas retrouvé. Les recherches sont extrêmement périlleuses. Il y a eu une douzaine de gendarmes qui sont intervenus dans la journée aux abords évidemment de la rivière. Le terrain est très humide, très dangereux, donc il marche par sondage hein, pour voir et pour retrouver un corps. Mais surtout, l'appel qu'on veut lancer, c'est que malgré la gentillesse des gens qui veulent aider les forces de l'ordre, surtout que les civils ne participent pas à ces recherches car l'état des berges sont beaucoup, beaucoup trop dangereuses pour que ce soit d'autres personnes que les forces de l'ordre qui procèdent à ces recherches. Les sols sont détrempés, glissants, avec des trous d'eau. Et donc, c'est vraiment des situations et des circonstances difficiles pour les recherches.
Françoise Souliman, préfète de Haute-Marne, jointe au téléphone par Stéphanie Pérénon. Par ailleurs, le syndicat UNSA Police demande l'ouverture d'une enquête après la disparition dans la Seine à Paris d'une policière de la brigade fluviale dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Les syndicats ne comprennent pas pourquoi l'exercice auquel elle participait a été maintenu compte tenu de la montée du niveau du fleuve. Allez, sans rapport avec ce que nous venons d'évoquer, nous nous rendons à Marseille où s'est déroulé hier le traditionnel bain du Nouvel An. Pas moins d'une centaine de courageux volontaires n'ont pas hésité à se jeter à l'eau. Des téméraires, mais pas vous. Chloé Gandolfo.
Non, malgré une température à 17 degrés, pourtant à midi, je n'ai pas réussi à me mettre à l'eau. Mais je vous rassure, d'autres ont eu aussi une petite appréhension avant de sauter, comme Serge, il est pourtant bien préparé.
Heureusement que j'ai mis mon maillot de bain en laine, parce que sans ça, c'était insupportable.
C'est un maillot de bain en laine ?
Oui. En mérinos, c'est fabuleux. Contre le froid, c'est merveilleux.
Et on a pris la température aussi à la sortie. On a croisé Margot, elle a traditionnel maillot de bain une pièce et en sortant elle n'avait pas chaud.
C'est frais au début, après on sent plus son corps et après on est bien. C'est plus de l'adrénaline, c'est bien.
Car on nous annonce que l'eau est à seulement 13 petits degrés, mais Mireille n'a pas froid aux yeux, elle participe à ce bain chaque année.
C'est toujours aussi agréable d'année après année, et je reconnais que là, j'ai absolument pas froid. On pourrait penser, mais non, je ne grelotte pas, c'est parfait.
Et parmi les nageurs, on a trouvé des compétiteurs qui veulent à tout prix arriver premier. On est tombé sur les copains du gagnant.
Mais il a triché,
Non, il n'a pas triché.
Si, il est parti de, au lieu de passer par la plage.
Non,
il a,
non,
si,
non,
si,
il
n'a
pas triché.
Un brin de mauvaise foi, mais aussi beaucoup de courageux et quand même aussi quelques frileux comme Marie, venue soutenir sa copine.
Il y en a une qui est plus courageuse que l'autre. Non, moi, je suis passée au champagne directement.
Ah, le maillot de bain en laine. Voilà une idée à Patricia Martin, à laquelle vous devriez songer. Tricoter pour notre ami Eric Delvaux, oui, qui n'hésite pas à se jeter à l'eau tous les week-ends.
Pas que ce soit très saillant quand je sors de l'eau, mais enfin bref. C'était le journal de Serge Martin.